Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un brin d'histoire, je vous propose de parler de Jean-François de La Pérouse, explorateur de légende. Jean-François Gallo de La Pérouse est né le 22 août 1741 au château de Gaux, en Albigeois, situé d'ailleurs ce château à deux pas d'Albi. Sa famille a été anoblie en 1558, enrichie durant l'époque faste du pastel. Leur enrichissement va leur permettre de quitter la bourgeoisie et de devenir seigneurs de Brins et Orban. Ceci va leur autoriser d'exercer des charges juridiques. Et Jean-François, lui, passe sa jeunesse chez la grand-mère à Sauveterre de Rouergue. Il y parle occitan et français. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il étudie au collège de jésuites d'Albi. Il y rencontre d'autres nobles qui seront de futurs officiers de marine. Parmi ses amis, d'autres nobles, Charles Jean-Baptiste Mengo de La Hague, né en 1741 comme lui, mais qui mourra noyé en mars 1779, alors que son navire, la Charmante, heurte un écueil et coule au large de Saint. Dès ses 15 ans, il entre dans la compagnie des gardes de la marine. C'est à ce moment-là qu'il ajoute à son nom celui de La Pérouse, terre reçue par son père. Pendant ses études, à 17 ans, encouragé par le marquis de Tafanel de la Jonquière, il est engagé dans les conflits maritimes de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne, au large de l'Amérique du Nord. En Terre-Neuve, il naviguera sur les rives du Saint-Laurent avec son cousin Clément et le chevalier d'Arsac de Ternay, son tuteur. En 1757, La Pérouse embarque sur le Célèbre, avec l'escadre envoyée au secours de Louisbourg, sur l'île Royale. À son retour, il échappe à l'épidémie qui ravage la ville de Brest. Il y retourne en février 1758, il y embarque sur le Zéphyr, puis le Cerf et sur le Formidable, afin de préparer un éventuel débarquement en Angleterre. Le 23 novembre, cette escadre de 21 vaisseaux se heurte à 23 Britanniques à l'entrée de la base de Quiberon. Le Formidable supporte tout le poids de l'attaque. La Pérouse reçoit deux blessures. Il est fait prisonnier, puis échangé. En mai 1762, il embarque sur le Robuste, sous les ordres de Charles-Henri Louis d'Arsac de Ternay, et va détruire une pêcherie britannique en Terre-Neuve. Il navigue ensuite sur de nombreux vaisseaux en tant qu'enseigne de vaisseau, ceci entre 1765 et 1769, pour le transport maritime. En 1771, il fait campagne à Saint-Domingue avec la Belle Poule. En 1772, il accompagne Louis d'Arsac de Ternay à l'île de France, où il maurice. Celui-ci est nommé gouverneur. Et La Pérouse restera 5 ans à ses côtés sur l'île. Il y rencontre d'ailleurs sa future épouse, Éléonore Broudou. Le mariage ne pourra se faire qu'en 1783. Les deux époux ne resteront d'ailleurs que 2 ans ensemble. Entre-temps, la guerre d'indépendance d'Amérique va obliger La Pérouse, dès son retour de l'île Maurice, à partir combattre les Anglais. Cette expédition périlleuse fut dirigée par le vice-amiral Comte d'Estaing. Ce soldat, après échec par la prise de l'île de Grenade et La Pérouse, se posa ensuite en surveillance à l'entrée du Saint-Laurent. Capitaine de vaisseau, commandant la frégate Lastrée, il s'empare d'une frégate anglaise après les combats des îles des Saintes. En 1782, malgré une navigation difficile, sans perdre un homme, il dirige l'expédition de la baie d'Hudson. Il y fit des prisonniers, avec beaucoup d'humanité d'ailleurs, et les échangera avec des prisonniers français. De retour en France, Louis XVI et le ministre de la Marine de Castries le choisissent pour mener une grande expédition mondiale afin de poursuivre les découvertes de Cook. Ils partent de Brest le 1er août 1785. Les deux bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, jaugent 500 tonneaux et mesurent 42 mètres de long et 8,50 m de large. Les 226 marins et savants embarquent à bord pour 4 ans avec 950 tonnes de matériel nautique. 5 bœufs, 40 moutons, 400 volailles avec foin et grains nécessaires, une bibliothèque de plusieurs centaines de livres, des instruments scientifiques les plus récents. Des cadeaux aussi, des objets d'échange pour les indigènes, du métal, 20 000 outils, perles de verre, étoffes, vaisselle, médailles, etc. Des graines à semer dans les pays abordés, des choux, des salades, des carottes, une soixantaine d'arbres ou arbustes en pot à distribuer. La mission scientifique est la plus importante jamais réalisée. Jamais autant de savants scientifiques n'ont été embarqués. Les volontaires sont nombreux. D'ailleurs, on doit les sélectionner. 2 ingénieurs, 3 dessinateurs, 2 physiciens, 1 botaniste, 1 naturaliste, 1 interprète russe. Certains sont possesseurs de plusieurs disciplines, d'autres sont aumôniers. On emmène les instruments scientifiques les plus modernes, le sextant de Ramsen, le cercle de réflexion de Borda, ainsi que des horloges marines. À bord, il y a une bibliothèque scientifique, une grande chambre, lieu de vie, mais aussi la possibilité de s'isoler. Pour l'observation dans les étapes, on dispose de tentes d'observation. 350 volumes de références accompagnent les 15 savants. L'organisation à bord est très rigoureuse. Le lever a lieu à 7h30 et la cloche annonce les repas. 11h30 et 17h30. Le menu est composé d'ail, de biscuits, de grocs, du pain, de morue, de café, de viande fraîche ou salée. Les officiers ont droit à des repas servis. Soupe, eau, volailles et viande se conservent bien, les volailles et la viande, par salaison. Il faut 2000 à 3000 litres d'eau sont nécessaires par jour. Mais aussi, il faut savoir qu'après quelques jours, l'eau fermente. Chaque fois qu'il est possible, La Pérouse fait envoyer en France un journal de bord, des dessins, des cartes, des courriers. Ainsi, Dufresne raconte le voyage car il a été débarqué à Macao en 1787 afin de trouver des marchés commerciaux avec la Chine. L'expédition parcourt ensuite les côtes de Corée et du Japon. Elle fait escale à Petropavlovsk, en Russie, afin de débarquer Jean-Baptiste de Lesseps, qui rapporte les informations de la mission par voie terrestre. Ce que nous savons de l'expédition, c'est qu'elle se dirige ensuite vers le sud, les îles Samoa et la Micronésie, pour enfin atteindre l'Australie à Botany Bay. L'expédition repart ensuite, puis disparaîtra près des Nouvelles-Hébrides, dans l'archipel de Vanuatu. De multiples expéditions de secours sont organisées. Mais ce n'est qu'en 1827 qu'un capitaine anglais, Peter Dillon, découvre une série d'objets, ainsi que les témoignages d'insulaires. Dumont d'Urville découvre une épave sur l'île de Vanikoro. Là, il édifie un cénotaphe à la gloire des marins disparus, victimes sûrement d'une tempête. En 1962, une seconde épave est découverte. Six campagnes de fouilles sont menées. En 1999, on met à jour les vestiges d'un camp de survie. En 2003, un squelette est découvert dans l'épave. De nombreuses missions, reportages, ont créé autour de cet événement un mythe. Combien de temps ont survécu les hommes épargnés du naufrage, mais comment ont-ils vécu leur fin sur l'île ? Louis XVI, instigateur du voyage, aurait, paraît-il, demandé des nouvelles du navigateur le 21 janvier 1793 avant de monter sur l'échafaud. L'association La Pérouse à Albi a pour objectif d'encourager et coordonner les activités et études consacrées à son navigateur. Le musée La Pérouse est à Albi un lieu incontournable pour honorer ce navigateur et ses marins. Nous vous convions à le visiter. Il nous semblait nécessaire de parler de ce grand navigateur, né au milieu de nos terres, qui consacra sa vie aux océans. Merci et à la prochaine émission. retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.